à votre santé. 232e émission de l'Association citoyenne pour des centres de santé dans le Pays de Valois. Bonjour les amis du RVM 93.7. Aujourd'hui, nous avons à nouveau notre invité, monsieur...
Triolet.
Tenet Cléo, vice-président de la SOS.
Christian Max.
Et moi-même, Hélène Mazur. Nous allons poursuivre notre conversation sur la question des soins dentaires. Nous avons eu déjà un panorama sur les études, sur les conditions pour accéder, etc. C'est quand même un problème, on le sait, au niveau des soins dentaires. Passer, je dirais, un certain seuil de problèmes, eh bien, ce sont les soins coûteux. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu, monsieur Triolet, sur ce qui est remboursé par la Sécurité sociale, ce qui est, pas trop cher mais pas remboursé ou moitié, et ce qui est hors de prix, je pense à l'implantologie.
Alors, dites-moi un petit peu. C'est un domaine très très vaste. Alors, c'est sûr que déjà, il faut savoir que les soins dentaires en France sont sous-évalués, malheureusement. Par rapport au coût réel que ça représente dans le fonctionnement d'un cabinet dentaire, les soins sont très très mal pris en charge par la Sécurité sociale. Donc c'est sûr que si on se compare par rapport à des pays étrangers, ne serait-ce que l'Allemagne, une extraction en France revient à 43,38 €, ou peut-être un petit peu plus, parce que là, il y a une augmentation au 1er janvier 2024, mais en tant que retraité, je n'ai pas suivi l'évolution. Et donc, avant, c'était 43,38 €, alors qu'en Allemagne, on était à plus de 100-120 €. Donc, soins aussi, les soins conservateurs, donc qui permettent de conserver la dent, donc ce qu'on appelait avant la dévitalisation de la dent, hein, donc pour retirer le nerf, donc c'est pareil, c'était 60 et quelques euros en France, ou 80 € en fonction de la dent, dans d'autres pays c'était 3 ou 4 fois plus. Donc c'est pour ça que malheureusement, pour qu'un cabinet dentaire puisse vivre correctement, parce que ça demande un investissement matériel très conséquent, même le matériel pour soigner, c'est très, très coûteux, il faut du personnel, il y a des charges et tout. Donc, la proportion de soins, un cabinet dentaire ne peut pas vivre uniquement avec les soins dentaires. Ce n'est pas possible. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi s'adjoindre une part de prothèse pour pouvoir justement continuer aussi les soins dans de bonnes conditions, parce qu'une dent dévitalisée, étant une dent fragile, elle risque de se casser. Pour la conservation, il est nécessaire de la couronner. Alors après, il y a différents types de couronnes, des couronnes esthétiques ou des couronnes métalliques. C'est sûr que depuis 3-4 ans, il y a ce qu'on appelle le RAC 0. Donc c'est là où les mutuelles interviennent, parce que le remboursement par la Sécurité sociale a toujours été très faible. Ils ont même diminué depuis quelques mois. Avant c'était 70%, maintenant c'est 60%. Donc le restant, les 40%, c'est ce qu'on appelait le ticket modérateur. Pour les soins, c'était remboursé par les mutuelles.
Oui.
Donc si la part des mutuelles augmente,
c'est le coût de la mutuelle qui va augmenter.
Les cotisations des mutuelles vont augmenter. Voilà, ça, c'est invariable. Donc, ils ne sont pas philanthropes pour autant. Donc, ce qui fait que pour avoir quand même un équilibre financier, les cabinets dentaires sont amenés à faire des prothèses. Des prothèses amovibles, des prothèses fixes. Alors, c'est vrai que prothèses amovibles, maintenant, il y en a certaines qui sont remboursées à 100% dans le cadre du RAC 0, justement, reste à charge 0. Alors, ce ne sont pas forcément ce sont des bonnes prothèses, mais il n'y a sûrement pas la même finition, le même rendu esthétique qu'avec des prothèses plus élaborées. On a le même parallèle avec l'optique et l'audition. Hein. Donc, on sait très bien que les premières prothèses auditives sont vraiment de moins bonne qualité. Bon, on va passer là-dessus. Mais si vous voulez, donc après, c'est sûr que l'activité prothétique est une part très importante dans l'activité d'un chirurgien dentiste, pour une raison d'équilibre financier, il ne faut pas se leurrer. Hein. Donc c'est quand même, je vais peut-être me faire mal voir par la profession, mais il faut reconnaître les choses comme elles sont. Donc, ce n'est pas avec les seuls soins qu'on peut faire vivre un cabinet dentaire. Donc ensuite, il y a la partie non remboursée par la Sécurité sociale, des soins qui ne sont pas pris en charge, c'est surtout tout ce qui est implant. Alors, il y a une petite participation en fonction du type d'implant qui est faite par la CPM, mais bon, c'est dérisoire par rapport au coût global d'un implant. Et tout simplement, quand on prend le coût d'un implant, il y a tout le matériel pour ça, il y a le travail du prothésiste qui est beaucoup plus élaboré, et c'est le dispositif médical sur mesure, puisque c'est comme ça que ça s'appelle, revient relativement cher par rapport à une simple couronne. Donc c'est pour ça qu'un implant, en règle générale, je n'en posais pas, mais c'était dans les 2000-2300 euros, la totalité, pilier implantaire et couronne sur l'implant. Donc c'est sûr que tout de suite, ça fait des sommes très importantes quand il s'agit d'en mettre plusieurs. Ou quand on peut même mettre des implants, remplacer toutes les dents par 4 ou 6 implants. Donc là, on arrive à des devis qui sont quand même très très élevés. C'est sûr que c'est une solution qui procure un confort incomparable par rapport à une prothèse complète. Si on prend une prothèse complète mandibulaire qui est très très difficile à faire quand on n'a plus du tout de dents, même avec de l'expérience, c'est quelque chose qui est difficilement, quelquefois supportable par le patient. Prothèse complète maxillaire, ça peut encore aller parce qu'on a une surface d'appui et tout, mais les deux ensemble, c'est quelquefois très compliqué à gérer. Et donc, quand on peut mettre des implants, c'est un plus
pour le patient. Bien, c'est déjà une bonne chose à savoir, que quand même c'est pour une qualité supplémentaire de soins. On va peut-être passer ensuite...
Mais il faut une formation spéciale alors pour vous. Oui. Après on va quitter les implants, mais juste une question.
Hein, oui, alors, les implants sont très, très faiblement abordés au cours des études.
Le cursus
normal. Ouais. Donc après il faut faire des formations, ce qu'on appelle des DU. Diplôme universitaire dans des sociétés ou dans des facultés pour avoir une formation supplémentaire. Justement, là, j'étais avec un praticien de l'Aube et à l'hôpital de Troyes, ils ont ouvert dans le service de l'hôpital un DU pour accueillir des étudiants qui viennent faire une formation afin de pouvoir poser. Alors, ils les posent eux-mêmes dans le service de chirurgie sous la houlette de cet enseignant. Et après, une fois qu'ils ont satisfait à l'examen, dans ce cas-là, ils peuvent autonomes. Ouais. Mais c'est sûr que ça ne fait pas partie de l'enseignement au niveau des facultés, parce que le problème, c'est le coût du matériel. Parce que, en plus, il faut aussi savoir que ça demande des conditions d'asepsie rigoureuses. Il y a quelques années, c'était nécessaire d'avoir une salle blanche pour justement de faire la chirurgie, parce que ça demande une asepsie très stricte. On ne peut pas se permettre de faire... Et bon, j'avais un associé à une période qui débutait dans l'implantologie, et dans ces cas-là, il condamnait purement et simplement son cabinet. Il retirait tout le matériel qui était inutile, et donc c'était une matinée ou une après-midi exclusivement réservé à l'implantologie. D'accord. Donc après, il est parti, il a fait une salle de chirurgie spécifique à ça, parce que justement, il y a de plus en plus d'étudiants qui se lancent dans les implants, et alors, je vais peut-être aller à l'encontre de ce que je disais tout à l'heure, mais dans certaines facultés, ils enseignent, et ça je le tiens d'une consoeur dont le fils était à Reims, et ils avaient enseigné le concept PIP, paro-implant-prothèse, c'est-à-dire que ils orientaient les étudiants dans cette direction au détriment des soins. Donc ce n'était pas forcément une bonne chose, mais c'est difficile au niveau d'une faculté et au niveau des centres de soins liés aux facultés de se lancer dans les implants, parce que ne serait-ce que l'accastillage, tout ce qui est pièces mécaniques pour la mise en place des implants et tout, c'est relativement cher.
Bien, on comprend bien donc tout cet aspect. Bravo. Je pense que ça aura permis à nos auditeurs, auditrices de RVM de voir un petit peu. Alors, lorsque nous vous avons contacté, M. Triolet, vous aviez des choses à dire sur ce qu'on appelle l'ordre des chirurgiens dentistes. On parle plus souvent, oui.
Mais moi, toujours une question d'histoire. Qu'est-ce que c'est que cet ordre des chirurgiens dentistes? D'où ça sort?
Alors, ça sort, ça a été créé en 1946 par les ordonnances qui a créé donc un organisme qui servait de relation avec le gouvernement, avec le... Et donc c'était... Alors, le Conseil de l'Ordre National, bon, déjà, il y a deux mots, conseil et ordre. Donc, à notre niveau, si vous voulez, c'était plus... Donc, nous, on est plus axé sur le conseil auprès des jeunes praticiens, mais il y a aussi le côté ordre. Alors, le Conseil national, lui, chapeaute tout ça, et donc, c'est lui qui a édité ce qu'on appelle le Code de déontologie, c'est la Bible de la profession, qui impose des règles strictes à l'ensemble de la profession. Et tout praticien doit être inscrit au tableau du Conseil de l'Ordre. Donc ça, ça se fait au niveau département. Mais le Conseil national chapeaute l'ensemble de la profession et c'est lui qui est en contact avec le ministère de la Santé, le ministère des Universités et toutes sortes de juridictions nationales. Parce que bon, c'est lui qui gère un petit peu après, quand il y a des problèmes, des plaintes, entre autres... Il y a eu le scandale d'Antexia il y a quelques années, il y en aura d'autres encore qui apparaissent au fur et à mesure. Et donc c'est le juge de paix de la profession, d'accord. Et c'est lui qui dirige l'ensemble des règles de la profession. Donc il y a le Conseil national de l'ordre qui est à Paris, ensuite... Le deuxième étage, c'est le conseil régional. Pour nous, c'est le conseil régional des Hauts-de-France, qui est basé à Lille. Et ensuite, le conseil départemental, qui lui est basé à Compiègne. Donc, le rôle du conseil départemental, c'est déjà, comme je vous le disais, c'est un rôle de conseil. Et après, il y a le côté ordre. Donc, la première des choses, c'est l'inscription des praticiens qui veulent venir travailler dans l'Oise. Un praticien... qui veut travailler dans l'Oise, sauf si c'est un exercice secondaire, il doit être inscrit au tableau du Conseil de l'Ordre. Donc ça demande toute une démarche administrative.
C'est, comment dire, ça donne une sorte de label, de validité pour exercer,
tout
sinon
à fait.
On ne peut pas exercer.
Non, parce d'accord. que donc on vérifie la validité du diplôme, que ce soit des praticiens ayant... fait leurs études en France, ou des praticiens qui viennent de l'étranger, que ce soit de Roumanie, parce que le diplôme des facultés roumaines est reconnu valable en France, que ce soit les étudiants français qui viennent d'Espagne, il y en a beaucoup qui vont faire leurs études en Espagne ou au Portugal. Alors, les étudiants ou les praticiens étrangers, espagnols ou portugais, pour s'inscrire en France, on leur fait passer un test linguistique. Parce qu'on ne peut pas se permettre de donner l'autorisation à des praticiens d'exercer et de pratiquer des soins sur des patients s'il n'y a pas cette compréhension de la langue. Donc c'est très très important. Ça, c'est vrai que de ce côté-là, on est, je ne vais pas dire envahi, mais dans l'Oise, on a beaucoup de praticiens étrangers sur Beauvais, entre autres, de par la proximité de l'aéroport de Beauvais. Ça, c'est... quelque chose, je dirais qu'il y a entre 30 et 40% d'étrangers à Beauvais.
Quand même.
Et donc, puis ils connaissent la filière, donc il y en a un qui est arrivé, et puis c'est un deuxième, et puis donc... mais l'inscription d'un praticien, d'un étudiant au tableau est une démarche administrative qui est quand même très rigoureuse. On a des secrétaires à Compiègne qui sont stricts là-dessus. Donc il y a tout un...
Il y a une garantie finalement. Ah, c'est une garantie, donc c'est bon à savoir. Qu'on ne critique pas impunément quelqu'un.
Non.
Voilà, c'est une garantie. Très bien. Alors, Donc, ce conseil de l'ordre qu'on voit bien, c'est là, il régularise en quelque sorte la profession. Et finalement, par rapport aux patients, il n'y a pas de rapport, c'est uniquement professionnel.
Alors, le conseil de l'ordre reçoit les doléances ou les plaintes des patients. Quand il y a des conflits entre un patient et un praticien, c'est par le conseil de l'ordre que ça se traite. Donc on reçoit soit un courrier, soit un mail. Maintenant, on considère que les mails sont des moyens de communication officiels. Et à partir du moment où il se plaint ou il émet une doléance, on ouvre un dossier et on demande au praticien incriminé son éclairage sur les propos du patient. À partir du moment où on reçoit ce genre de courrier, on établit ce qu'on appelle une tentative de conciliation. On a un délai à partir du moment où on reçoit ce courrier, on a un délai pour ouvrir cette procédure. Donc on convoque le praticien et le patient. Il y a trois cas de figure. Soit le patient et le praticien sont d'accord, s'entendent, on fait un PV de conciliation, ça s'arrête là. Soit il n'y a pas d'entente, dans ce cas-là, on fait un PV de non-conciliation, ou s'il y a une absence du praticien, parce que bon, il y a une carence, dans ce cas-là, on fait un PV de non-conciliation, et on transmet le dossier, ce qu'on appelle en chambre disciplinaire de première instance, à Lille. Et c'est Lille qui va traiter le dossier. Donc, c'est une autre procédure où là, bon, bien souvent, il faut faire appel à un avocat. Et donc, c'est une procédure qu'on essaye d'éviter au maximum dans l'Oise. Parce que quelquefois, un coup de fil... Alors, c'est surtout quand... Alors, ça peut être entre deux praticiens aussi. Hein, quand il y a des conflits entre des praticiens, c'est aussi au niveau du... Pardon, au niveau du conseil de l'ordre que ça se règle. Mais quelquefois, on peut arriver à une solution amiable par un coup de téléphone, et puis donc, mais c'est le rôle du conseil de l'ordre. Et donc, alors c'est vrai que c'est une part de notre activité qui augmente malheureusement de plus en plus, parce que les gens ne sont pas contents des praticiens, soit pour différentes raisons. Hein.
On sait que dans la société aujourd'hui, il y a beaucoup de sources de conflits. D'incompréhension, d'exigence d'un côté, enfin bref, voilà.
Et c'est vrai que de ce côté-là, c'est quand même très, très compliqué.
Oui. Bah, écoutez, déjà, ça nous donne une bonne vue de la situation. Comment sont désignés, je pense que ce sera notre dernière question pour achever, comment sont désignés donc ces membres du Conseil de l'Ordre?
Alors, les membres du Conseil de l'Ordre sont désignés par vote. Hein, donc, ils proposent leur candidature. Donc en principe, c'est les élections durent, le mandat dure 6 ans, pardon, renouvelable au bout de 6 ans. Alors maintenant, on est par binôme, c'est-à-dire que la parité exige que ce soit un binôme homme-femme qui se présente. Il y a 8 titulaires et 4 suppléants.
D'accord.
Donc dans chaque pour notre département, parce que c'est en fonction du nombre de praticiens inscrits. Nous, on est un petit département, il y a 330 praticiens en exercice. Alors, dans en exercice, qui sont inscrits au tableau, mais il peut y avoir des praticiens qui viennent d'autres départements, ils sont inscrits dans d'autres départements, ils viennent faire des vacations ou un temps partiel dans l'Oise. D'accord. Donc on a plus de praticiens que ça.
D'accord.
Bon, bah, comme ça, on sait qu'on est pourvu quand même, malgré les difficultés pour trouver un dentiste. Bah, écoutez, merci Monsieur Triolet. Je crois qu'il y a pas mal de choses qu'on a mieux compris. Alors, chers amis auditeurs, auditrices, vous savez que vous pouvez nous écouter, comme d'habitude, le samedi à 10h30, le mardi à 13h, le jeudi à 16h, et bien entendu, en podcast.
Voilà, comme on dit en français.
Au revoir.
Au revoir. Au revoir.